Aujourd'hui, comment faire le lien avec ce qui a été dit en introduction et avec une prière aussi de Guy, prière de Guy dans laquelle il cite Romains 8, 9, 13, où Paul nous invite à vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Ça pourra être le fil conducteur de cette prédication. Et puis, même si c'est un peu décalé par rapport à la présidence de Colin, j'ai bien aimé en faisant ces petits Lego, ces petites animations. Et quelquefois, l'Évangile, ou plus largement la Bible, doit être exposé de façon simple, en mettant notre intelligence humaine de côté, notre sagesse humaine de côté, pour complètement saisir par la foi ce que le Seigneur veut bien nous dire au travers de ces différents témoignages. Donc cette prédication, elle est librement inspirée aussi d'une prédication qui a été donnée donc à l'extérieur, mais des fois, et j'insiste, il y a tellement des choses qui sont bien faites par ailleurs, à quoi bon de vouloir soi-même tout refaire, et parfois de manière plus maladroite. Alors le chapitre qui va nous intéresser, je pense peut-être d'avoir peut-être déjà quelques idées, c'est dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 30, l'Évangile révélé aux enfants. En ce temps, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Alors, cette prédication commençait par « Faites ce que je dis, mais ne prenez pas exemple sur moi, et je le prends aussi pour moi. » Et quand je suis venu, on va dire, aux évangiles, à commencer ces premiers pas de foi, bien hésitant, en étant un scientifique, bardé de diplômes, ingénieur, docteur, et en ayant une approche très rationnelle, très scientifique. Et à quoi bon? Et quand un pasteur aussi parle, et c'était un pasteur qui a fait ce message, qui a fait des études de théologie, et des fois faire des études de théologie pour de la théologie, et pour comprendre, mettre du sens sur ce que le Seigneur veut nous révéler aussi bien dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, à des fois, eh bien, on peut y perdre son latin, et manquer l'essentiel, c'est de réellement croire, croire avec son cœur, et venir au Christ avec foi. Et en ces temps, c'est vrai que peut-être pour nous, je dirais, j'espère que quand je m'adresse à vous tous, chrétiens, chrétiennes, certains depuis de longues dates, j'espère que vous n'en êtes plus là. Moi, je suis encore un petit peu là, avec mon esprit un peu encore rationnel. Mais en ces temps, on se méfie de tout ce qui est trop simple, de tout ce qui est trop facile. Et en ces temps-ci aussi, on se méfie de tous ceux qui ont le verbe facile, des beaux parleurs, des leaders charismatiques, qui abusent de la crédulité des gens, de la simplicité des gens, voire même de leur situation de souffrance, et les entraînent, aux yeux du monde, dans des mouvements sectaires. Je peux vous dire que mon frère, au début, quand j'ai fait ses premiers pas, il avait l'impression que je me faisais, on va dire, attirer par je ne sais trop quoi, et que c'était sectaire, que c'était dangereux, et que surtout, surtout, garde ton esprit avec toi, garde ton sang-froid. C'est vrai que c'est les temps où on essaie de mettre des mots sur tout. On veut avoir des preuves sur tout, des explications rationnelles, scientifiques, psychologiques, et j'en passe, et des meilleures, qui rassurent. Et dans ce contexte, et surtout en France, cette France a la réputation d'être un pays cartésien, comment transmettre facilement le message des évangiles et plus largement le message du Seigneur ? Et où Jésus se réjouit de ce que les sages et les gens intelligents, en faisant référence à ces docteurs de la loi, ou ces pharisiens notamment, ne peuvent pas comprendre le royaume qui est pourtant si simple d'accès aux plus petits. Et plus petits, enfants aussi, les dits non seulement enfants, mais les gens infantiles, les gens simples. Et si ces plus petits ont découvert quelque chose du royaume de Dieu, qui aujourd'hui va leur prêter attention? Qui va croire les discours des plus naïfs de ce monde? Cette semaine, j'ai pris une pause parce que je devais finir de solder mes congés d'été, les congés l'année passée, et je me suis retrouvé avec 3 jours auxquels je n'espérais pas, je me suis retrouvé en Chartreuse, et quand je faisais une balade, j'avais le MP3 et les écouteurs sur les oreilles, et parfois, surtout à la fin de la balade, quand j'avais plus de difficultés majeures à franchir, je mettais les évangiles. Et je me suis fait cette réflexion. Quand on entend l'évangile de Jean ou l'évangile de Luc, c'est vrai que le message est simple. C'est vrai qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément un bac plus 8. Le langage est abordable. Alors, c'est difficile de dire comment persuader de manière intelligente, peut-être de manière trop intelligente, et oublier mon discours aujourd'hui si c'est le cas, que l'intelligence est inutile, c'est un bien grand mot, mais bon, pour comprendre le mystère du royaume de Dieu. Et c'est un peu tout ce paradoxe, et aussi quelque part tout le mystère du message du Seigneur. Et on peut voir 2 handicaps qui peuvent nous mener un peu loin du Seigneur, ou qui peut nous éloigner du Seigneur. La première, c'est l'illusion de croire que la connaissance peut tout, que la connaissance peut permettre de maîtriser la réalité et la vie. Et dans le milieu des sages et des gens instruits, ce qui était aussi le cas à l'époque de ces pharisiens, de ces sadduciens et autres, on trouve souvent ce désir le plus profond de tout maîtriser par l'intelligence, de tout maîtriser par soi-même. Et ça commence par la maîtrise du corps, avec la médecine, puis les sentiments, la psychologie, la maîtrise de la spiritualité, par la philosophie, mais aussi la théologie, et puis également tout ce qui nous permet, tout ce qui va autour, et qui nous permet de manger, d'avoir toutes les techniques développées pour notre plaisir, pour nos déplacements. Et aussi, je dirais que je partage ça, en partie, collectivement et individuellement, l'homme a peur d'être aussi surpris, a peur d'être pris en défaut, de se retrouver sans explication, de se retrouver jeté dans la nature sans savoir où aller et qui il est. Il veut pouvoir comprendre sa vie pour la diriger comme il l'entend. Alors, dans la vie personnelle, quand on a fait un peu de chemin avec le Seigneur, c'est peut-être un peu moins vrai, mais quand on est dans le monde de l'entreprise, combien cela est vrai? Combien, à tous les échelons, on veut tout maîtriser par soi-même? Alors, comment donc cette recherche de maîtrise de la vérité peut-elle devenir un obstacle pour vivre le royaume de Dieu? Alors, si la recherche de la maîtrise complète par la connaissance, donc une illusion, permet de magnifiques réussites, mais à combien même cette recherche, en fait, donc, peut aussi nous éloigner de Dieu, à pondérer nos joies, nos enthousiasmes, et étouffer aussi quelque part la saveur de la vie, à étouffer nos sentiments, nos émotions, et de vivre comme nous devrions vivre. Combien de fois, des fois, on entend, et surtout dans le milieu professionnel, « Calme ta joie !» dit-on parfois, « Maîtrise-toi, maîtrise-toi !» Laisse tes émotions au vestiaire. Quand tu rentres au travail, tu dois être parfait. Maîtrise-toi. Ne te laisse pas aller. Et la maîtrise, donc, comme on le dit, peut étouffer la vie, étouffer les larmes, tout ce qui n'a pas sa place dans les codes de bonne conduite et de relations humaines. Et Jésus, qu'est-ce qu'il arrive? Et quand il s'adresse à ses docteurs de la loi, dans le contexte de l'époque, il débaroule, il les prend à contre-pied et dénonce ces lois qui étouffent. Les pharisiens, pour tout contrôler, ils avaient une liste non seulement dans Pentateuque, mais il avait rajouté des listes, en fait, donc de choses à faire, un pas faire, etc., une vraie prison. Et au milieu de ce foisonnement d'offres de spiritualité en tout genre, et notamment à l'époque où vivait Jésus, et même encore tel qu'on peut le constater encore aujourd'hui, ça a d'autres noms, mais bon, c'est avec des finalités qui ne sont pas très éloignées, Jésus lui aussi fait sa publicité, notamment sur le sermon sur la montagne, lorsqu'il attire quelques gens à lui et il s'adresse à lui. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués de votre joug, prenez sur vous le mien et laissez-vous instruire, car je suis un maître doux et humble. Jésus n'est pas un maître qui maîtrise, il est un maître qui rejoint. » Et ce maître, quand on le voit dans Zacharie, qui arrive vers nous, qui arrive encore vers nous, non pas sur un pur sang, sur un étalon, mais il arrive tout simplement sur un âne. Il n'arrive pas en Ferrari, il arrive tout simplement avec la Clio, passe-partout. Le second handicap, c'est aussi le recul. Alors pour avoir une meilleure compréhension, pour mieux maîtriser tout ce qui se passe autour de nous, c'est prendre du recul. Mais des fois, prendre trop de recul, eh bien finalement, on comprend que finalement, on ne comprend pas grand-chose. Et le doute peut s'installer. Et ce recul qui va à l'encontre de la crédulité, de la naïveté ou de la simplicité d'esprit avec laquelle il faut aller vers le Seigneur, aujourd'hui, hier et aussi demain, eh bien ce recul pourrait être dans un premier temps un bien, mais donc il introduit aussi un véritable poison, le poison du doute. Et le doute, je dirais le mauvais doute, l'incrédulité qui nous éloigne de Dieu. J'espère, frères et sœurs, que vous n'en êtes pas là, vous êtes encore chrétiens et chrétiennes bien affermis, et non, c'est pas pour vous, c'est peut-être pour moi, mais bon, voilà, je continue. Et avec le recul, finalement, tout ce qui n'est pas physiquement ou tout ce qui n'est pas intellectuellement abordable n'a pas de sens. Peut même effrayer, peut nous faire même douter. Et avec le recul, le miracle n'a plus de place. Les miracles des évangiles, à quoi bon? C'est quoi ces sornettes? J'arrive pas à expliquer, c'est pas vrai. Il est remplacé par des hypothèses, des pondérations, des explications différentes. Voilà. Et même, ça a amené quelques philosophes, je raccourcis, comme Descartes, à résumer l'unique certitude possible, avec tout le recul qu'il avait, je pense, donc je suis. Mais c'est, je trouve, assez limité, et cette certitude, elle est dérisoire et mortifère. Et même certains sont allés plus loin, qui sont venus à douter même de leur propre existence. Et doute qui génère pour l'homme le pire des choses, de l'anxiété, voire même de l'angoisse. Et l'angoisse extrême de se dire, et si je n'existais pas, et si tout cela n'était qu'un rêve issu du néant, et si Dieu n'existait pas. Je dis ça, ça peut vous surprendre, mais certains le vivent, certains le pensent. Et notamment quand il y a des moments où les gens se retrouvent seuls face à eux-mêmes, où les gens ne se réfugient pas dans l'activisme pour combler le vide, pour combler le néant, où ils décident de prendre du recul pour s'interroger sur eux-mêmes, certains, je vous l'affirme, se retrouvent dans cette situation, à douter de tout. Et à cause du recul et du doute, les sages et les gens instruits auxquels fait référence Matthieu dans son évangile sont toujours en danger de manquer la présence de Dieu. Et à cause du recul et du doute, nous-mêmes chrétiens et chrétiennes qui vivons encore selon la chair, malgré tout, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Les résultats, donc, c'est l'anxiété, voire l'angoisse. Et celui qui ne peut pas concevoir Dieu se confronte immédiatement à l'angoisse d'être perdu, d'être inutile. Et puis, plus il est angoissé, plus il a besoin de comprendre, plus il est frustré et plus il angoisse, c'est la spirale infernale. Et voilà, au milieu de ces gens instruits, qui lui posent des questions pièges, les pharisiens notamment, à l'époque de Jésus, pour étancher leur soif angoissée de comprendre, voilà un Jésus qui se réjouit. Il ne se moque pas, il se réjouit simplement. Et Jésus, qui se met à louer Dieu de ce que la vérité cachée aux sages et aux gens instruits, se révèle si simplement aux plus petits. À ces plus petits qui n'ont pas leur place dans les hautes réflexions spirituelles des théologiens, ou à ces plus petits qui, dans notre monde, n'ont pas les premiers rangs, qui se retrouvent au fond des rangs, ou qui, voilà, ne peuvent pas discuter aussi librement, sont peut-être aussi limités. Eh bien, Jésus se réjouit parce que l'approche du royaume de Dieu passe par un tout autre chemin. Un chemin, je vous le rassure, qui ne génère pas d'angoisse. Un chemin d'immédiateté, de l'instant. Un chemin où ne compte que l'expérience de la présence de Dieu. Un chemin qui ne compte que la joie de lui appartenir, la joie de le louer. Un chemin fait d'une paix générée par la confiance. Un chemin bien différent de celui qui est pavé d'angoisse générée par le doute, alimenté par notre esprit rationnel à l'extrême. Comme l'a dit Guy dans sa prière en citant Romains, chapitre 8, l'apôtre Paul nous invite à ne plus vivre selon notre chair, mais selon l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et vivre selon notre chair, c'est plus simplement et plus largement vivre de notre propre regard sur le monde et sur nous-mêmes, alors que vivre selon l'Esprit, c'est s'en remettre à un autre. C'est abandonner toute prétention de contrôle, de maîtrise, c'est renoncer à ce recul et coller à l'instant d'aujourd'hui et le vivre, à l'instant, à l'immédiateté du miracle de la vie. Chaque seconde que nous vivons est un véritable miracle. Laisser émerger et rayonner l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est simplement se permettre de vivre, vivre pleinement sans s'inquiéter. C'est un bon programme, mais là aussi, on en est parfois un peu loin. Vivre de l'esprit, c'est comprendre le monde et nous comprendre nous-mêmes, non pas avec notre intelligence, mais c'est adopter le regard de Dieu. Vivre de l'esprit, c'est savoir poser le fardeau des questions, souvent inutiles, pour entrer dans le repos que nous propose celui qui est doux et humble de cœur. Nous l'avons chanté, nous l'avons répété, Jésus, dans le repos de ceux qui n'ont pas besoin de tout comprendre, qui n'ont pas besoin de tout comprendre pour accéder au bonheur de vivre devant Dieu. Alors, le prédicateur disait à ce moment-là, faites ce que je dis, mais ne prenez pas exemple sur moi. Et je pourrais aussi le dire pour moi. À combien de fois, les gars, je me laisse emporter, je me laisse m'interroger notamment sur ce que je vis et de mettre des pourquoi, et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi ça m'arrive. Mais vivons l'instant tel qu'il est. Mettons ça de côté et faisons confiance pleinement au Seigneur. Car souvent ces questions qu'on se pose sont vaines et ne vont pas nous faire avancer. Faisons confiance au Seigneur. Tous ceux aussi qui parmi nous ont acquis une certaine expérience de la vie, notamment ceux qui ont les cheveux un peu gris, ou qui pensent avoir compris ce qu'est la vie, et sont parvenus avec les années à une certaine forme de compréhension des choses, une certaine quiétude, ce qu'on appelle la sagesse de la vie, tout cela aussi sont mis de côté, sont mis auprès de ceux que Jésus parle des sages et des gens instruits. L'expérience accumulée, c'est un bien grand mot, c'est sévère, le discours est volontiers, pas dans l'exagération, mais pour faire réagir, pour interpeller, pour un peu dérouter, comme le message de Jésus à ce moment-là dans Matthieu chapitre 11. Et les enfants savent quand même mieux et mieux comment aller dans le royaume de Dieu et comment croire. Avouez qu'il y a de quoi être dérouté, d'être déconcerté contre le texte de Matthieu, et qui, non content de conseiller l'ignorance, suggère aussi de prendre le joug du Seigneur et se décharger de lui, sur lui plutôt, de tous nos soucis. Quelle irresponsabilité! Quand on fait face à une situation de souffrance ou difficile, laquelle on se retrouve un peu pied au mur, dos au mur, qu'est-ce qu'on fait? On essaie toujours de s'en sortir par nous-mêmes. Et c'est le premier réflexe. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me retrouve des fois pied au mur, la première des choses que j'essaie de faire, c'est de m'en sortir par moi-même. Et le Seigneur n'est pas toujours là. Il arrive des fois, de temps en temps, à être là, mais pas toujours. D'abord, faire croire que Dieu serait aussi un maître, un roi qui ferait peser sur nous son pouvoir. Ensuite, faire croire que nos âmes pourraient se reposer. Mais voyons, l'Évangile, c'est du sérieux, c'est du costaud, normalement. C'est pas ça, c'est pas cette irresponsabilité de se décharger sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou qui est loin. Ensuite, faire croire que nos âmes pourraient se reposer, voilà. Mais il faut se battre, lutter pour la paix et la justice. C'est ce quoi, spontanément, on fait. Il faut lutter contre ces démons intérieurs et contre ceux qui sont dans le monde. Et ce texte dans Matthieu nous invite à faire tout le contraire. D'abord, il nous dit qu'il ne faut pas être intelligent, ni rechercher la sagesse, et qu'ensuite, il ne faudrait pas assumer nos responsabilités. Une certaine mesure. C'est vraiment un texte déroutant, déconcertant. Déroutant car... Pourquoi? Parce qu'il faut admettre qu'il va à l'encontre de notre propre tendance. Il n'est pas déroutant en soi, mais il est déroutant parce qu'il nous interpelle de notre propre manière de voir les choses. Et Jésus, par ce discours dans Matthieu, chapitre 11, veut par ses paroles nous surprendre, nous interpeller, nous amener à nous poser pour une fois les bonnes questions, à faire les bons choix. Et comme souvent, il leur disait à ces docteurs de la loi, à ces pharisiens, et puis aussi à nous, en tout cas au tout début de notre foi, de notre vie chrétienne, notre vie de foi, ce qu'ils n'attendent pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos premiers pas avec le Seigneur, mais c'était déconcertant et tout ce qu'il disait, c'était un peu contre toute attente. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'encore aujourd'hui, ces paroles, pour peu que nous les écoutions, nous surprennent. Et continue d'être dérangeante. Il ne faut pas prendre trop de recul, parce qu'elle le sera encore davantage. Elle nous révèle que l'Évangile est d'une toute autre nature que ce que nous pourrions en penser par notre raisonnement et notre sagesse même. L'esprit humain est un esprit fait de logique et de rationalité. Il examine toutes choses et en retient ce qui est bon, ce qui est efficace, ce qui marche. L'esprit du temps teste, fait des comparaisons, regarde à droite, regarde à gauche, pour savoir ce qui est le mieux. Et puis, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, le monde nous l'invite. Il est de coutume aujourd'hui de faire des expériences. On essaie ceci, cela, et puis parfois, pourquoi pas, d'aller à l'église. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je vais ailleurs. Si ça change la vie, je reste ici. Puis on va aller dans notre religion, puis voir, on arrête plus du tout au tout, et on met plus les pieds à l'église, qui de toute façon n'a pas pu être à la hauteur de notre espérance. Et quand je parle de l'église, ça va même au-delà, je ne veux pas m'étendre. Et c'est bien de cela qu'il est question dans ces paroles de Jésus. Il nous dit que justement l'évangile n'est absolument pas une affaire de logique. Ce n'est pas quelque chose que la raison humaine ou l'intelligence humaine peut vraiment comprendre. Par exemple, quand on cherche dans la Bible en général les récits pseudo-scientifiques, l'alignement de faits plus ou moins avérés qui prouvent finalement qu'il est bien inspiré de Dieu, ça va à un moment, ça va pour convaincre les plus incrédules. Mais nous devons croire sans tout cela. Et notamment quand je fais référence à deux passages dans Jean 2, l'eau qui est changée en vin au moment des noces de Cana, comment expliquer ça? Humainement, c'est impossible. Laissons ça de côté et croyons tout simplement que ce miracle a bien eu lieu. Ou encore, quand j'entendais ça dans mes oreilles pendant mes petites balades en Chartreuse, Lazare, ressuscité après 4 jours. 4 jours après sa mort. Et Marc, qui osait dire au Seigneur, il sent, il commence déjà à sentir.
Imaginez-vous un corps resté pendant 4 jours, ramené à la vie. Humainement, je ne peux pas l'expliquer. Laissons notre intelligence, notre sagesse de côté, et venons comme des petits enfants, et croyons tout simplement. Nous sommes aujourd'hui tous omnibulés par la preuve, le besoin de prouver, y compris certains théologiens, mais finalement, c'est que la foi, c'est justement le contraire de la preuve. L'enfant, a priori, un enfant, je dirais, normal, bon, j'ai l'expérience d'enfants un peu différents, donc bon, on va dire Huguette, par exemple, l'enfant ne se pose pas de questions métaphysiques. Ce sera pour plus tard. Il fait confiance. Notamment, il sait que les choses essentielles de la vie sont entre les mains de ses parents. Et que de toute façon, il n'y a rien à y faire. C'est comme ça. Ils s'en remettent à leurs parents pour la subsistance, pour le vêtement, pour l'argent, etc. Et bon, un temps pour tout. Et ce qui leur laisse, normalement, le temps de grandir, de se développer et de mûrir pour devenir ensuite des adultes à leur tour. Et la comparaison avec nous, ben, quand on est au début de la foi, quand on est au début du chemin avec le Seigneur, laissons-nous conduire. La subsistance est apportée par le Seigneur même. Et progressivement, nous deviendrons adultes. Et on se passera du lait premier âge apporté par le Seigneur. Et quand Jésus nous renvoie à eux, à ces enfants qui se laissent vivre, et je dirais avec un peu cette inconscience, c'est sans doute pour nous libérer de nos questions perpétuelles. Dieu existe-t-il? Est-ce que je fais le bien? Y a-t-il une vie après la mort? Et notamment quand on est avec certaines personnes âgées, qui même chrétiennes, ben, quand elles arrivent au bout du bout, ben, cette question-là n'est pas facile à aborder. Et quand il prononce ces paroles, il vient de répondre à Jean-Baptiste qui lui demandait « Es-tu le Christ ?» Puis aussi faisant répondre à Matthieu chapitre 11, verset 2. Et puis on voit ça dans les passages parallèles dans Luc chapitre 7, verset 20 et autres. Et Jésus lui a répondu, lui a donné la preuve attendue. Ensuite, ce sont les gens qui ont voulu les preuves. Et des miracles, et encore des miracles. Et encore, quand il a fait même des miracles, certains n'ont pas cru, ils en voulaient encore davantage. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient? Dieu? Par l'intermédiaire du Fils? Ou les miracles? Pour leur bien. Et puis finalement, il en a assez, et assez de ce refus incessant des gens de se confier simplement. Ils cherchent tous à savoir ce qu'il dit est meilleur, plus vrai, plus juste que ce que disent les autres. Mais peu importe cela, ce qui compte, ce ne sont pas les preuves de l'existence ou non de Dieu, ni de la vérité de l'Évangile. Ce qui compte, c'est que j'y crois ou j'y crois pas. J'espère que vous êtes posé cette question et que vous ne la posez plus parce qu'elle doit être acquise. J'y crois. C'est tout. Cette question, c'est simplement de croire. La foi n'est jamais affaire de logique, ni jamais la certitude des faits. Comment voulez-vous prouver que le joug, comme il le rapporte dans ce passage que nous avons lu au début, que le joug est aisé, le fardeau léger? Et qu'en savons-nous au moment de croire? Est-ce qu'il faut tester d'abord pour croire? Ou, j'aime pas trop dire dans ces discours un peu trop moralisants, mais est-ce qu'avant de se marier, est-ce qu'il faut goûter, il faut tester pour croire? Allons-nous attendre qu'on nous le prouve, qu'il faut croire? Et si tel est le cas, nous pouvons toujours courir. Car l'Évangile n'est non plus une affaire de logique, ni de sagesse, ni d'intelligence. Et j'aime bien cette petite pensée, si Jésus avait été un maître de sagesse, et c'est vrai, après réflexion, il ne serait jamais allé sur la croix, il serait resté bien planqué au chaud. Tous les gourous de ces sectes, généralement, des fois leurs disciples trinquent, mais eux, ils sont toujours à l'abri, souvent. Jésus est allé jusqu'à la croix pour nous. J'y crois, croyons. C'est ce qui fait que le message du Christ hier comme aujourd'hui, et je pense comme demain, sera toujours une folie, un scandale. C'est toujours aussi une folie de faire pleinement confiance à l'autre. Et de faire complètement confiance jusqu'au bout, c'est ce que nous invite Jésus à faire. Est-ce que moi-même je peux faire confiance et complètement à quelqu'un d'entre vous? Oui, mais un petit oui, quoi. Ce ne sera pas un grand oui. Et c'est une folie aussi d'ennemis, ces ennemis. C'est une aberration intellectuelle que de donner sa vie pour les ingrats, pour donner sa vie à celui qui nous enquiquine à longueur de journée, ou à ce chef au travail qui n'arrête pas de nous enquiquiner. Vous donneriez votre vie pour celui-ci? C'est difficile. Ben, pas moi. Voilà. La logique, l'efficacité créent des différences entre les hommes, entre les bons et les mauvais, entre les justes et les injustes, entre les sauvés et les perdus, entre ceux qui savent parler et ceux qui ne savent pas parler, entre ceux qui ont déjà une situation, ceux qui n'ont pas une situation. Par contre, la folie de la croix supprime toutes ces différences. Et cette folie, elle n'est pas simplement, c'est nous qui l'avons mis, hein, déjà Festus, quand au moment du procès de Paul, il l'accusait lui-même de folie, quand il avait résumé le message de l'Évangile. Dieu aime qui il veut, où et quand il veut. Nous n'avons rien à en dire. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire est d'un tout autre genre. Qui serait assez fou pour se décharger de toutes ses préoccupations? Et pourtant, n'est-ce pas à quoi il nous invite? Ou plutôt, il ne décharge pas, si on y regarde de plus près. Il nous charge d'autres choses. Vous êtes fatigué et chargé de vous-même. Voilà ce qu'il nous dit. Mais maintenant, préoccupez-vous d'autres choses. Occupez-vous de m'obéir, de suivre mes instructions, et vous verrez combien c'est plus facile que de s'obéir toujours à soi-même. À aucun moment, les préoccupations ne doivent disparaître, elles font partie de notre réalité, cependant. L'homme est un être fait de soucis, d'inquiétudes, de questions sans réponse. Mais combien ce fardeau se trouve allégé quand on cesse de ne penser qu'à soi et quand nos yeux sont tournés vers le Seigneur. C'est difficile à faire. Je le dis pour moi et peut-être aussi pour vous. Voilà. Par contre, nous restons au milieu de la vie, nous restons dans le monde. Le Seigneur ne nous invite pas à ne penser plus qu'à Dieu et aux choses du ciel, à nous isoler, à vivre comme des ermites, ou à vivre comme certains orientaux. Jésus ne nous parle pas de ça, au contraire, il nous renvoie encore et encore, toujours au cœur du monde, au cœur de la vie. C'est de la foi qu'il nous parle. D'une foi qui n'a besoin d'aucune preuve, ni d'aucune certitude, et qui se développe d'autant mieux qu'elle n'a justement aucune preuve de ce à quoi elle croit. Une foi qui ne s'attend à aucune satisfaction, ni même à aucune réalisation, mais au contraire cherche à suivre les instructions qui, littéralement dans le texte, veut aussi dire apprendre de lui, apprendre du Seigneur. Instruction, comme on pourrait croire au début, donc au sens de loi, de commandement, donc faire la volonté du Christ, mais aussi, comme nous l'avons vu, instruction au sens d'apprentissage. Et à cela, le miroir avec l'enfant, comme l'enfant apprend chaque jour, il nous faut apprendre, nous aussi, à croire chaque jour. Et nous n'avons pas fini. Apprendre à croire chaque jour et de plus en plus. Et Jésus parle plutôt d'un maître d'école, finalement, pour les enfants, comme nous sommes, avec le Christ, qui nous apprend ce qu'est la vie et où nous devrions mettre nos préoccupations. Et jour après jour, nous devons revenir sur les bancs de l'école. Et Dieu, par Jésus, révèle aux petits ce qu'il tient caché aux sages. À travers cela est combattue une connaissance ésotérique, complexe, difficile, qui ne serait réservée qu'à des initiés. Non, la parole de Dieu, la bonne nouvelle, s'adresse à tous. En tout cas, tous ceux qui sont capables de... tous ceux qui, que la bonne nouvelle peut toucher, atteindre, quiconque l'écoute, et ce, sans exclusivité. Qu'ils fassent partie ou non des sages, entre guillemets, ou des intelligents, selon le monde, ou non. Cette bonne nouvelle, encore une fois, elle s'adresse à tous ceux qui sont capables de toucher, d'atteindre, d'écouter. Alors, on a parlé de la sagesse et l'intelligence. Alors, il faut peut-être aussi nuancer le débat. Et classiquement, la sagesse et l'intelligence sont dans la Bible citées comme des vertus, notamment le livre de la sagesse. Mais dans le contexte de Matthieu, utiliser négativement l'expression vise bien sûr l'orgueil de la connaissance. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Dieu aussi se révèle à travers Jésus, si bien que cela nous dit quelque chose sur la façon dont Jésus se situe par rapport à Dieu. Hein, Matthieu chapitre 11 verset 27 nous le rappelle. Et Jésus loue Dieu. Jésus ne s'attribue en aucune façon les succès de sa prédication. Que tout un chacun ne puisse revendiquer quoi que ce soit, cela va de soi. Mais c'est encore plus fort de la part de Jésus. Dans Jean 1, si on transforme la parole, Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Il est pleinement Dieu. Et dans cette prière, dans cette louange qu'il fait au Père, eh bien, il lui dit que tout lui a été remis par son Père, tout en se considérant lui-même à sa manière comme un tout petit. Jésus nous montre l'exemple. Jésus nous montre comment accéder au Père par lui-même en l'imitant. Et puis, telle est la réponse de Jésus face à une situation à laquelle apparemment il ne s'attendait pas, qu'il découvre et accueille, et dont il s'émerveille comme une grâce. « Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. » Une prière de louange qui loue cette œuvre de salut dont il constate la puissance et les effets. Disposition spirituelle qui renvoie à la situation des tout-petits. Disponibilité à l'inconnu, à la découverte, à l'imprévu, à l'imprévisible, dynamique de découverte et d'étonnement, naissance renouvelée à la faveur d'une connaissance toujours en chemin, décidée à grandir, compréhension intuitive et non raisonnée, logique, connaître en lien avec les tout-petits coïncide en quelque sorte avec naître à autre chose en accord de ce que l'on découvre, avec ce qu'on découvre de Dieu. Si bien que cette connaissance révélé s'avère au final être moins un savoir ou une méthode qu'une sorte de sagesse de vie fondée sur l'humilité, l'amour et la communion comme lieu de rencontre avec le Père. C'est d'ailleurs ainsi que Jésus se définit lui-même dans les versets suivants, Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur ». Et de cette douceur et de cette humilité, cette prière de Jésus en donne un bon exemple. Par contre, une limite, il est vrai que regardant au Christ le plus souvent comme un homme, et c'était aussi la vocation, la volonté aussi du Père, qu'il soit parmi nous, homme parmi les hommes, homme fait de sang et de chair, nous passons peut-être aussi à certains côtés d'un certain mystère du Fils, comme nous l'avons répété, qui est pleinement Dieu et qui est avec Dieu. Nous qui désirons suivre le Christ, être comptés parmi ses disciples, nous faisons aussi l'expérience de l'écart existant entre ce que nous désirons être à sa suite et ce que nous sommes, ou je pourrais même dire ce que nous pouvons faire. Qui ne se sent pas démuni parfois, voire affligé face à l'ampleur spirituelle et concrète du chemin qui nous indique et a vécu avant nous. Mais ce verset aussi nous redit que cette douceur et humilité du Christ est de l'ordre du mystère, et c'est-à-dire une grâce que pour sa part, tout en la vivant de manière pour ainsi originelle, n'entendait tenir que de Dieu. En ce qui nous concerne, on espère être de ceux à qui le Fils voudra bien le révéler et continuer à le révéler et au bénéfice de cette révélation. Être de ceux qui sauront se mettre en route et venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Pour conclure, j'y crois ou j'y crois pas? Nous, chrétiens et chrétiennes, nous y croyons. Et on ne cherche pas à comprendre. Amen.
Attention à vos enfants et évitez d'aller côté de la cuisine, là-bas il y a des trous grands et profonds. Sortez pas la porte à gauche là.